et de mettre Ferronav par la SN. On vous racontera ça tout à l'heure.
Et ben on vous met pas de brève de générique parce qu'il saute, mais voilà. Et ben moi je vais commencer tout de suite par des brèves, le temps que je retrouve mes papiers. Excusez-nous, c'est un peu le bordel. Ah voilà, ça y est. Alors, ça se passe du côté de Lyon. Et on va commencer par une mauvaise nouvelle, puis on finira par une bonne nouvelle. Et c'est dans le même domaine, vous verrez. Bref, on ne sait pas si c'est l'avant trêve hivernale ou le retour de Gérard Collomb, ou les deux, ou aussi et une sinistre habitude. Mais hier matin, mardi, donc, un squat Cour Émile Zola à Villeurbanne a été expulsé, laissant pas moins de 70 personnes sur le trottoir, et bien sûr sans solution. Deux personnes ont fini au poste. L'un est sans papier, donc bien sûr, voilà, en plus de l'avoir foutu dehors sur la rue, dans la rue, ils vont essayer de, par tous les moyens, de l'expulser. Et une autre pour provocation à la rébellion, son délit, hein, avoir alpagué des passants pour leur montrer ce qu'il se passe et éventuellement espérer sûrement qu'ils réagissent. Voilà, donc c'est ça. Ils se sont fait foutre en garde à vue pour, appel de solidarité. Alors après, voilà. La bonne nouvelle, c'est que après quelques péripéties, un squat vient d'ouvrir à la Croix-Rousse où des mineurs isolés vont pouvoir poser leurs affaires pour quelques temps. Alors ils avaient d'abord été hébergés dans un local appelé lieu de répit appartenant à la mairie du 1er arrondissement, puis avaient été mis dehors. Alors les articles que j'ai vus ont dit que le local avait fermé. Alors je sais pas dans quelles conditions ils avaient été fermés, mais bref, en tout cas ils sont quand même retrouvés sans solution. Puis ensuite ils avaient campé cet été dans un jardin relais d'assistance maternelle. Alors bon, c'est vrai que camper cet été, ça fait un peu bucolique, c'est quand même la misère, quoi. Puis ils ont été quand même expulsés, et là c'est l'ancien collège Maurice Sève qui va leur servir de lieu d'accueil pour quelques temps, délai qui sera au minimum le temps de la procédure d'expulsion, puisque les flics ont constaté ce dimanche l'occupation et qu'il s'est rien passé depuis ces 48 heures là. Du coup ils peuvent pas faire de procédure un peu à l'arrache comme ils peuvent faire de temps en temps. Voilà, et on leur souhaite un peu plus si ils ont de la chance. En tout cas, on espère que l'occupation durera longtemps et on leur souhaite bon courage. On prendra des nouvelles régulièrement.
Et puis encore une autre mauvaise nouvelle, ma foi, Redouane Faïd qui est quand même un petit peu une sorte de figure romantique, héroïque, à laquelle on ne peut pas être complètement insensible. Redouane Faïd, le grand gangster multi-évadé, multi-braqueur, multi-tout. Redouane Faïd qui donc là était en cavale depuis, je ne sais plus, mais quelques mois quand même.
Ouais.
Redouane Faïd a été arrêté la nuit dernière à 4h du matin dans un appart où il était avec son frère, son grand frère Rachid, et puis quelques autres personnes. A priori, il y avait tout le matos pour préparer un nouveau braquage, et il semble qu'en réalité il ait été un peu dépourvu de thunes, et c'est ça qui l'a empêché de se barrer de France pour être un petit peu plus en sécurité ailleurs. Voilà, bah... Jusqu'à la prochaine fois qu'il sortira.
Ah, vous voyez qu'il marche le générique. Alors, j'arriverai pas à régler ce foutu micro. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, ça y est, je m'y retrouve. Un maire italien donc a été arrêté pour avoir été trop clément avec les migrants. Hein. Donc il est maire depuis 2004 du village italien de, désolé si je prononce mal, Riace, en Calabre, c'est-à-dire c'est dans le sud de l'Italie, et il a été arrêté et placé sous contrôle judiciaire depuis hier. Il semblerait que le gouvernement de Salvini soit prêt à tout pour mater toute solidarité envers les migrants. Effectivement, Domenico Lucano est accusé d'avoir organisé des mariages blancs et est donc assigné à résidence pour, je cite, aide à l'immigration clandestine. Et comme il est fort probable que ces accusations ne tiennent pas bien longtemps, il est également accusé de, je recite, irrégularité dans l'octroi de subventions liées au ramassage des ordures. C'est-à-dire, quand on est dans un pays où on sait que la mafia a quand même une certaine importance, notamment sur la gestion des ordures, ça fait quand même doucement rigoler. Son tort, il aurait attribué la gestion des ordures du village à une coopérative liée aux migrants. Bon, liée aux migrants, c'est une expression que j'ai trouvée dans les articles que j'ai lus. Qui dit coopérative, j'imagine, ça peut être un truc plutôt chouette, ou en tout cas, c'est pas des migrants qui sont exploités pour ramasser les ordures, quoi. Ça a l'air de faire un truc un peu chouette. Donc voilà ce qu'on lui reproche. Depuis les années 2000, le village connaît des arrivées de bateaux qui viennent s'échouer sur une plage pas très loin. Et dans ce village que les habitants voyaient se dépeupler, la majorité voit cela plutôt comme une chance, hein, plutôt comme une bonne nouvelle. Alors ça fait un peu plaisir quand même d'entendre des nouvelles comme ça. De nouveaux commerces ouvrent, certains tenus par de nouveaux migrants, les gens ont l'air plutôt contents de tout ce qui s'y passe. Bref, le village revit. Aujourd'hui, près d'un quart de ses habitants sont des réfugiés et on est bien loin de l'image d'invasion, de bouleversement culturel, de choc des civilisations ou autres prophéties catastrophiques que nous tiennent les discours divers et variés. En 2010, un court-métrage de Wim Wenders.
Wim Wenders,
merci. Putain, je me disais que je ne le connaissais pas, mais que ça se trouve, il y a d'autres gens qui le connaissaient. Est tourné à Riace. Ah, donc toi, si toi tu le connais, t'imagines que le gars est quand même un peu célèbre, quoi. Bon, après, moi je trouve dans les articles, là, bon, le type est arrêté, mais c'est très focalisé sur sa personne. Sauf que quand même, j'ai l'impression qu'il aurait. Enfin, c'est impossible qu'il puisse faire ça tout seul et que c'est quand même vraiment au village entier que tout ça a pu être fait et assez chouette. Donc en tout cas, il y a un court-métrage sur ce village pour témoigner de cette expérience. La RAI devait diffuser, hein, La RAI qui est une chaîne publique italienne, une fiction inspirée par ce qui se passe dans ce village. La fiction a quand même été interdite de diffusion. Hein.
On n'a pas un gouvernement fasciste pour rien.
Exactement. À la suite de son arrestation, Salvini balance sur les réseaux sociaux. Alors, c'est là où vous allez voir que Salvini et Trump ont quand même de gros liens sur leur manière de s'exprimer. Attendons ce que diront les droits de l'hommiste. Et il avait peu de temps avant qualifié notre ami Demicio Lucano de zéro. Bon, ça c'était un peu l'insulte suprême. Bon, le tort quand même de Lucano, c'est plutôt, enfin, ce qu'on pourrait lui reprocher, en tout cas, j'imagine, c'est son imprudence au téléphone, hein, parce que les enquêteurs ont quand même plusieurs enregistrements de lui. Je vous en citer quelques-uns. Il y en a un où il parle à une jeune Nigériane. Il dit, vous savez, quelle est selon moi la seule possibilité, c'est que vous vous mariez comme a fait Stella. Stella a épousé Nazerano. Je suis responsable de l'état civil. Le mariage avec un citoyen italien, je le célèbre tout de suite. Voilà. Et il y a un autre où il parle à une migrante. Il dit, je vais vous faire la carte d'identité. Je suis hors la loi car pour faire la carte d'identité, je devrais avoir un permis de séjour encore valable. En plus, vous devriez démontrer que vous résidez à Riace. J'assume la responsabilité et je vous dis que ça va. Bon, voilà. Hein, c'est quand même une grosse, grosse imprudence de sa part, hein, même si c'est quand même plutôt chouette de son côté, comme effectivement il a ce pouvoir en main de carte d'identité, d'état civil, tout ça, de jouer ce qu'il y a dans son pouvoir. De ce côté-là, voilà. Bon, bah, nous, de notre côté, hein, de la frontière, hein, on a quand même Mélenchon, qui est chef de file du mouvement qui ressemble de plus en plus à du nationalisme de gauche, avec ses drapeaux tricolores, sa Marseillaise et la peur du travailleur immigré qui viendrait saboter nos acquis sociaux. Eh bien, ce chef de file-là a donc refusé de signer un manifeste pour l'accueil des migrants. Il se place donc du côté de ceux qui ne veulent pas perdre quelques voix d'un électorat qui pourrait avoir des tendances xénophobes, et donc légitime ce genre de discours plutôt que de faire front sur ce genre de questions migratoires, ce qui semblerait être quand même à peu près la base et le degré zéro de la solidarité. Même si, bien sûr, soyons clairs, cette histoire de manifeste ne devait pas aboutir sur grand-chose et n'aboutira sûrement sur rien, à part une espèce de prise de position de personnalité plus ou moins publique. Bref, ça a le mérite d'exister, c'est sûr que ça ne va rien changer. Mais bon, Ça aurait dû rien changer, même si quand même ça a au moins eu le mérite de clarifier la position de la France insoumise. Espérons que cette prise de position entraîne un raz-de-marée de déchirement de cartes de leur côté. Je ne sais pas si ce sera vraiment le cas. En tout cas, les voix du côté de la France insoumise ne se sont pas soulevées contre son chef, mais ont plutôt appelé à un espèce de... je ne sais pas, complot à gauche pour dire « Ah, vous essayez de nous mettre dans une mauvaise position. » J'ai envie de dire, vous vous y êtes mis tout seul.
En fait, tu fais partie de la Radio Canu.
Et alors maintenant, on va avoir une petite interview qu'on a piquée à Radio Galère à Marseille. Alors, on se souvient de toutes ces histoires autour du col de l'échelle. À un moment, les générations identitaires avaient fait une sorte de mission pour aller arrêter les migrants au sommet de la montagne. Les migrants qui arrivaient à pied d'Italie, dans une région où en réalité la plupart des gens font plutôt des actes de solidarité un peu basiques. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un endroit où des migrants essayent de traverser la montagne avec extrêmement peu de moyens techniques, alors qu'en réalité, c'est de la vraie montagne. Et donc, éventuellement, ces gens meurent parce qu'il fait froid, parce qu'ils se cassent la gueule, parce que toutes ces choses-là. C'est par exemple une région où les guides de montagne font des manifestations contre la politique migratoire. Parce que juste, eux, ils savent ce que c'est que la montagne, quoi. Là-dessus, Génération Identitaire, eux, montent toute une opération avec des énormes bagnoles, avec des hélicos, avec des machins, pour aller dresser une barrière symbolique au sommet du col de l'échelle, pour tenir la barrière, pour renvoyer des migrants qui voulaient passer chez eux. Et puis, ils font aussi un peu la terreur dans les rues de Briançon, à côté. Ils chopent des gens, ils les amènent aux flics, etc. etc. Bon, là-dessus, le monde politique s'émeut très légèrement. Gérard Collomb dit que quand même, c'est pas très bien, mais bon, allez, hop, puisque Génération Identitaire le demande, il envoie plutôt plus de gendarmes pour contrôler la frontière. Ça a été ça, sa réaction. Mais quelques jours après, par contre, une troupe de camarades à nous décide de faire une manifestation de protestation. Parce que Génération Identitaire, ils viennent, ils restent quelques jours et puis ils se barrent.
Ouais, c'est vraiment de l'ordre de l'agitation médiatique.
Oui, c'est ça. Du coup, d'autres gens, des antifascistes, des gens qui kiffent pas trop l'idée de frontières, décident de faire une manifestation et de faire une manifestation qui part d'Italie et qui arrive à Briançon. Comme ça, en passant la frontière à 300, bah, ma foi, s'il y a quelques migrants avec eux, c'est toujours pas très évident pour les gendarmes d'arrêter 300 personnes au milieu de la montagne. Et donc, ça fait toujours la possibilité à quelques personnes d'arriver, en tout cas jusqu'à Briançon, de manière relativement sécure. La manif se fait, arrivé à Briançon, les manifestants se dispersent. Et là, y en a qui vont boire un coup et qui se font tomber dessus par des gendarmes qui commencent par en assommer un, puis qui l'arrêtent. Et puis il y a encore deux autres personnes qui ont arrêté. Bref, ce jour-là, il y a trois personnes arrêtées qui devaient être jugées relativement peu après. Finalement, le procès est repoussé et entre-temps, il y a à nouveau quatre autres personnes qui ont été arrêtées, mais pour le coup, plusieurs mois après. Alors, je ne sais pas exactement sur quelle base, mais j'imagine de la vidéosurveillance. Et tous ces gens-là vont être jugés au mois de novembre. Radio Galère a réussi à avoir au téléphone l'un de ces inculpés. Extrait.
Toi, tu fais partie des inculpés, des sept personnes qui ont été inculpées suite à la marche du 22 avril.
Oui.
Et du coup, je voulais savoir un petit peu déjà comment, dans le Briançonnais, parce que vous êtes un paquet, parmi ces sept personnes, vous êtes quelques-uns, quelques-unes à habiter sur place, enfin même une majorité. Et du coup, je voulais savoir un petit peu comment, entre guillemets, en pratique, s'organise un petit peu la solidarité aux migrants et aux migrantes dans le Briançonnais.
Bah, elle s'organise via des associations qui interviennent soit dans l'accueil des exilés, soit dans la défense de leurs droits. Donc pour ce qui est de l'accueil, c'est l'association Refuge Solidaire qui a ouvert au début de l'été dernier quand les arrivées ont commencé à être plus importantes. Donc c'est un lieu d'accueil d'urgence dans lequel les gens peuvent se reposer et puis reprendre un peu des forces avant de continuer leur route. Et puis on a l'association chez Marcel aussi, qui a un squat qui a ouvert aussi l'année dernière, qui est un lieu un peu différent dans le sens où l'idée c'est qu'il soit ouvert à des gens qui ont besoin de prendre un peu plus le temps de réfléchir. Voilà, et puis après il y a l'association Tous Migrants qui est une association plus portée sur la sensibilisation et sur des actions plus judiciaires, on va dire.
D'accord. Du coup, judiciaire de type porter plainte contre l'État français, par exemple ?
Voilà, voilà. Bah, okay. Porter des plaintes, faire des signalements, comme ça a été déjà fait, des choses comme ça. Voilà. Et puis après, voilà, il y a des gens, qui font partie de ces associations-là ou pas, et qui sont un peu plus présents sur le terrain pour aller porter secours aux personnes quand c'est nécessaire et observer un peu ce qui se passe aussi sur le terrain. Voilà. Voilà, après, ce qui me paraît important, puisqu'on parle d'organisation et qu'on parlait de la marche du 22 juste avant, c'est de bien rappeler que cette marche, cette manifestation qui a été organisée le 22, c'est une manifestation complètement spontanée. Et que, vu la situation aujourd'hui, vu les témoignages qu'on recueille, vu la connaissance qu'on a de ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on peut dire, c'est que la véritable bande organisée aujourd'hui... c'est plutôt la génération identitaire et la police.
Oui, là, il commence à y avoir un petit peu des textes qui... Enfin, des témoignages qui montrent à quel point ils sont comme proches et amicaux les uns envers les autres.
Oui, oui, ben voilà, ça c'est des témoignages qu'on a recueillis il y a déjà quelques mois. Bon, maintenant, ils sont moins présents, génération identitaire, mais oui, on a recueilli des témoignages qui prouvent... vraiment qu'il y a une sorte de collaboration en fait entre la police et les identitaires, quoi. Mmh.
Mais du coup l'accusation que vous êtes une bande organisée, ça, vous le prenez comment en fait? Ça vous fait marrer ou enfin moi je trouve ça un petit peu, c'est parce que je trouve ça un petit peu drôle et enfin un peu tristement drôle, mais je sais pas comment vous le prenez.
Bon, pour l'instant voilà, c'est un peu difficile de se prononcer là-dessus. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que la véritable bande organisée, elle n'est pas de notre côté. Et qu'après, si nous, par moment, on est obligé de s'organiser, c'est aussi que tout nous pousse à ça, en fait. C'est parce qu'il y a de la répression, parce qu'il y a de la violence, parce que parfois, on doit un peu s'organiser. Mais voilà. Je pense que ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la vraie bande organisée, elle n'est pas de ce côté-là, quoi. Nous, on fait un peu comme on peut, quoi. Mmh.
Du coup, il y a du soutien de la part de, bah, des habitants, des habitantes de Briançon et d'autour. Comment ça se passe, ça, le lien entre les...
Bah, oui, il y a quand même beaucoup de soutien. Enfin, il y a quand même beaucoup de Briançonnais qui sont mobilisés autour de ce sujet des exilés qui arrivent ici. Et puis, quand même, on a beaucoup d'aide de l'extérieur. Cet été, il y a énormément de gens qui venaient passer des vacances ici, par exemple, qui sont venus aider. Et ça a été vraiment précieux pour nous. Et c'est quelque chose auquel on tient, nous. L'idée qu'on défend, c'est que voilà, c'est pas un problème briançonnais, c'est un problème qui concerne tout le monde. De toute façon, les gens, ils restent ici que quelques jours et après, ils vont un peu de partout en France. Donc, voilà, il y a quand même une vraie solidarité au niveau national autour de ce qui se passe ici. Ouais.
Et est-ce que, moi, j'étais un peu surprise de voir la date à laquelle vous avez été interpellé. Et du coup, je voulais savoir, vous, comment... Sur le coup ou après coup, si finalement, ces arrestations, elles vous ont surprise ou pas tant que ça ou...
Non, enfin, nous, elles ne nous ont pas surprises plus que ça. Quand on voit comment évoluent les pratiques de l'État et les pratiques de la police depuis quelques mois, avec une violence et une volonté de réprimer les solidarités et de tuer les solidarités de plus en plus affirmées, on va dire, il n'y a rien d'étonnant à cela, quoi. Après... ils se sont mis 7 personnes sous la dent, ils auraient pu s'en mettre 200, parce que ce jour-là, il y en avait 200, quoi. Donc,
oui, ils ont repéré des gens dont la tête leur revenait un petit peu, et qui étaient peut-être un peu trop présents sur des trucs de solidarité.
Mmh. Oui, et puis des gens qui avaient été mobilisés sur d'autres luttes peu de temps avant dans la Haute-Durance, notamment la lutte contre la THT. Et voilà, comme ils font un peu l'amalgame entre les deux mouvements, Le discours, c'est un peu de dire que c'est les gens de la THT qui ont noyauté le mouvement d'aide aux migrants. C'est complètement débile.
Il y a toujours cette recherche effrénée du chef et de la tête pensante.
Oui, voilà.
Et sinon, vous aussi, ça vous fait réagir comment parce que le 6 juillet, il y a le Conseil constitutionnel qui s'est prononcé par rapport à ces histoires de principes de fraternité.
Ouais.
Et du coup, il découpe la vie selon les frontières. Hein, où il raconte que le principe de fraternité s'applique pour une aide au séjour, mais pas pour l'aide à l'entrée sur le territoire. Et du coup, faudrait avoir comme une espèce de carte des frontières de la France tatouée quelque part pour savoir à partir d'où est-ce qu'on est capable de donner de l'eau à quelqu'un qui est en train de marcher. Ouais. Du coup, ce truc de le principe de fraternité, ça vous évoque, ce truc de vieux conseil des sages là qui essaye de redécouper la loi.
Oui, pour nous, ce qu'on peut en retenir, c'est que ça ne change rien à la situation. La décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, la preuve, c'est que 3 jours après, le procureur il sautait sur l'occasion pour nous convoquer en garde à vue. Donc, on peut résumer les choses de la façon suivante, c'est qu'en fait, on reste de toute façon condamnable à partir du moment où on va porter secours à des personnes. On pourra juste se défendre un peu plus facilement auprès du tribunal, mais il faudra continuer à se défendre en invoquant le principe de fraternité et le caractère humanitaire de notre intervention, à condition, bien sûr, que ça nous soit arrivé par hasard. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est dans un cadre militant, par contre, là, c'est plus du tout la même chose. Donc, en fait, la décision du Conseil constitutionnel, elle introduit quelque chose de nouveau. C'est un peu qu'être militant, c'est un délit, quoi. Et après, ce qui est fou, c'est les limites qui sont mises au principe de fraternité, qui, bien sûr, est plus valable au-delà de la frontière. C'est quelque chose qui est aussi fortement contestable. Hein. Le principe de fraternité, c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution depuis qu'elle est là. Aujourd'hui, sous prétexte de troubles à l'ordre public, on essaye de mettre des limites à ce principe, qui est quand même un principe de base de la Constitution. Et c'est d'ailleurs le sens du communiqué de presse qu'on a fait le lendemain de notre garde à vue, c'est que la fraternité, nous, notre fraternité, elle n'a pas de frontières, quoi.
Est-ce que vous savez s'il y a une procédure judiciaire qui s'est mise en place à l'encontre des identitaires qui étaient là au col de l'échelle le 21 avril
Non, pour l'instant, il n'y a aucune poursuite.
Hein. D'accord.
Il y a soi-disant une enquête en cours. Pour nous, ça prouve bien qu'il y a une sorte de vraie collaboration en fait, entre l'État et les identitaires. Parce que si on avait voulu les condamner, on pouvait le faire. Il suffit d'aller sur leur page Facebook et de voir les messages qui sont délivrés, les vidéos qui sont mises en ligne pour pouvoir les condamner. Il n'y a pas besoin d'une enquête, de faire une enquête pendant des mois.
Oui, puis le port de vêtements, limite d'uniformes, qui ressemble fort à celui de la police, enfin, rien que ça, c'est un délit un peu grave. Enfin, je veux dire, ils ont quand même arrêté des gens dans la rue à Briançon.
Ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a quand même un lien assez étroit entre la montée des violences policières et la présence impunie de générations identitaires.
Ouais, oui.
Ce que génération identitaire a essayé de faire le 22 au col de l'échelle et ce qu'ils ont fait pendant les jours suivants en essayant d'interpeller des personnes, de les renvoyer en Italie, tout ça, c'est ce que fait la police tous les jours.
Et génération identitaire, du coup, ce sont des personnes qui sont basées sur Briançon ?
Pour l'instant, on n'a pas d'infos, je pense pas, mais c'est des gens qui viennent plutôt d'un peu loin, notamment Lyon,
ouais.
Choses comme ça. Pour l'instant, après, j'imagine qu'ils cherchent quand même. Leur intérêt, c'est de chercher des relais au niveau local. Hein.
Ouais. Sinon, est-ce que tu pourrais parler un peu de la situation aujourd'hui par rapport, par exemple, aux situations de violence qui ont eu lieu à la police aux frontières ou par rapport à chez Jésus ?
Nous, du fait qu'on est sur le terrain et qu'on recueille un peu des témoignages, on voit un peu l'évolution de la situation depuis quelques mois. Et ce qu'on peut constater, c'est que quand même, la violence policière, elle va crescendo. Voilà, on a des tabassages réguliers de personnes. On a des gens qui se font menacer arme à la main de plus en plus fréquemment.
Donc menacés de par la police
Du style stop, arrête-toi ou je tire, par exemple. Mm-hmm. Donc on se demande un peu jusqu'à quand la police va réussir à garder son sang-froid face à ces situations-là. Donc ça nous inquiète quand même pas mal. Puis l'impression qu'on a, c'est qu'au début, c'était le fait de quelques personnes isolées au sein des forces de l'ordre. Et on a l'impression que plus ça va, plus ça se répand, en fait. C'est pas systématiquement les mêmes personnes. C'est un peu le constat qu'on peut faire. Après, on peut constater autre chose aussi, c'est qu'il y a sûrement des grosses tensions au sein des forces de police, parce qu'on recueille des témoignages où on voit qu'il y a des policiers qui essayent de temporiser face à leurs collègues. Des policiers qui font même des actes qui sont touchés par ce qui se passe et qu'ils réagissent face à la violence de leurs collègues avec leur humanité, en fait. Et donc ça, c'est assez intéressant à constater aussi. Même si, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression que petit à petit, il y a de plus en plus de... La violence se répand, en fait. On avait l'impression au départ que c'était concentré plus au niveau de la frontière, au niveau de la PAF. Maintenant, on a l'impression qu'il y a des faits de violence qui sont un peu le fait de toutes les forces de police, avec des choses qui se passent même dans la ville de Briançon.
Ok, ouais, c'est ce que j'allais poser comme question. Du coup, c'est important d'être un peu nombreux et nombreuses, d'occuper un peu l'espace de Briançon les prochains temps, quoi.
Oui, tout à fait.
Oui, et puis là, le message est clair. Le message, c'est attention, les militants, on a l'œil sur vous, on sait ce que vous faites. Enfin, je veux dire, avec aussi ce discours de... Ce sont les mêmes que ceux de la THT, enfin, des trucs qu'on peut connaître, avoir déjà entendu. Il y a vraiment ce truc-là de mise sur pression des militants des solidaires en général, vu les dernières...
La technique, c'est l'intimidation. L'intimidation... Et le découragement. Donc, c'est comme on décourage les exilés à venir chez nous avec des procédures administratives inhumaines, avec des procédures très très longues, avec des gens qui se font arrêter à la gare à Paris quand ils descendent du train et qu'ils ont déjà payé tout leur voyage pour arriver jusque-là, des gens qui, après des mois de procédure, sont envoyés en Italie. Voilà, cette politique du découragement, elle est aussi mise en place à l'encontre des solidaires. Voilà, il faut faire peur pour décourager. Pour briser la solidarité, c'est ce que je disais. Bon, il faut essayer de pas tomber dans le piège, quoi.
Et bah voilà.
Ne tombons pas dans le piège.
Là, c'était le moment d'une petite virgule sonore. Tout dou 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 dou. Flamanville, toujours plus merdique, toujours plus tard pour l'ouverture et toujours plus cher. Dans un avis publié aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire accuse EDF de défaillance. Et alors attention, c'est des gens, quand ils pondent un rapport et qu'ils le rendent public, ils pèsent chacun de leurs mots. Donc ils accusent EDF et c'est des gens qui ne sont pas a priori complètement anti-nucléaire. L'autorité de sûreté nucléaire, c'est le truc qui émane du gouvernement, donc des gouvernements qui, depuis le début des années 70, couvrent la France de centrales nucléaires. Le truc qui émane du gouvernement pour vérifier que ce qu'ils font n'est pas non plus complètement certain de péter très rapidement. Et l'autorité de sûreté nucléaire est quand même plutôt globalement, disons, relativement souple pour, par exemple, autoriser la prolongation de centrales qui avaient été prévues pour durer 25 ans, de les prolonger jusqu'à 30, puis jusqu'à 40, puis peut-être jusqu'à un petit peu au-delà. Tout ça, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui fait. Donc,
C'est-à-dire qu'en plus, ils doivent être dans un dilemme un peu compliqué, ce qui, du coup, en critiquant un peu, enfin en mettant des bâtons dans les roues au développement de Flamanville, il y a l'autre EPR qui...
Attends, on y arrive, mais c'est dans un petit moment. Mais alors donc, voilà, ce que je voulais dire en tout cas, c'est que quand l'autorité de sûreté nucléaire parle de défaillance à propos d'EDF, eh ben, il faut carrément s'inquiéter. Carrément s'inquiéter. Et donc, l'autorité de sûreté nucléaire accuse EDF de défaillance dans la surveillance du chantier de l'EPR de Flamanville. L'ASN commande aussi d'étendre la revue de la qualité des matériels installés sur ce réacteur. Alors, le problème dont on parle, c'est ce fameux problème dont on a déjà parlé ici, des fameuses soudures défectueuses. qui ont été repérés sur le circuit secondaire qui sert à évacuer de la vapeur d'eau. Donc de la vapeur d'eau sous très haute pression, des soudures qui ont été faites à la va-vite.
Par le stagiaire de troisième.
Par le stagiaire de troisième. Il y en a 150, mais en réalité, c'est pas 150 fois un plombier qui va arriver et revenir avec un petit fer. C'est quand même des trucs très, très importants, très, très durs et compliqués à faire. Ça coûte du pognon, ça prend du temps. Alors, avant ce problème, on en était déjà à prévoir une mise en service de l'EPR pour la fin de l'année 2018. Depuis qu'on a jeté un coup d'œil sur ces soudures, on parle plutôt de 2020. Ça aurait dû être dans 3 mois, ça sera plutôt dans 1 an et demi. L'ASN, qui a demandé des réparations sur près de la moitié des 150 soudures concernées, estime donc que, ouvrez les guillemets, la gestion de cette situation par l'exploitant a été défaillante. C'est-à-dire que, quand on parle de défaillance, voilà, c'est-à-dire que d'un côté, les soudures, elles sont défaillantes, mais en fait, en réalité, c'est vachement plus inquiétant que ça, parce que ce qui est aussi défaillant, c'est bien la procédure suivie par EDF une fois qu'elle a constaté le merdier. En gros, EDF a vu le truc en 2015, mais elle a commencé par ne rien dire et espérer que ça allait passer, quoi. Parce que quand même, dans le nucléaire, les gens, ils font ça. Ils voient que ça merde, ils disent rien, ils espèrent que ça va passer. On sait que dans cette centrale de Flamanville, il y a cette fameuse cuve qui a été faite en carton et que les gens ont falsifié des certificats. Et puis, on fait « Oh là, ça va passer, ça va passer, ça va passer. » Bon, au résultat, on a une cuve qui sera bien plus fragile que prévu. Et donc, défaillance des soudures repérées en 2015, mais c'est seulement au début de l'année 2017 que l'ASN a été avertie. Du coup, l'ASN aujourd'hui exige, ouvrez les guillemets, une analyse approfondie des dysfonctionnements survenus au sein des services d'EDF et de ceux de ses fournisseurs, et estime que le groupe EDF devra aussi s'expliquer sur son information tardive de l'ASN. Tout ça dans le rapport qui est sorti aujourd'hui. Alors, si l'ASN est tellement vénère, c'est notamment parce que EDF a aussi indiqué qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de refaire 8 grosses soudures principales situées au niveau de l'enceinte de confinement destinée à contenir la radioactivité. Bon, en tout cas, c'est des soudures hyper importantes. Et là, EDF propose plutôt le maintien en l'état de ces 8 soudures qui ont quand même été jugées pourries, hein, par ailleurs. Mais bon, allez, si on prie très fort, peut-être que ça tiendra. Et donc, alors, la vapeur d'eau qui est à l'intérieur de ce circuit secondaire de refroidissement, elle, elle n'est pas radioactive. Mais s'il y a une fuite, s'il y a une soudure qui pète, s'il y a une fuite sous pression, là, à ce moment-là, ça peut avoir des répercussions sur la partie critique du réacteur. Enfin, il n'y a plus assez d'eau pour assurer le refroidissement. Le réacteur chauffe, boum, en résumé. L'ASN a donc invité EDF à engager dès à présent les actions préalables à la réparation des soudures concernées, en estimant qu'un travail technique important reste à faire, des travaux qui risquent de décaler encore de plusieurs semaines le démarrage de l'EPR de Flamanville dans le courant de l'année 2020. Bon, là, on était à 2020. Finalement, même s'ils refont ces 8 soudures, on reste à 2020, mais plus tard dans l'année 2020. Alors, cet EPR de Flamanville, bon, on va quand même se refaire un petit résumé, hein. Les travaux ont commencé en 2007 pour une mise en service initialement prévue en 2012. Maintenant, on en est donc à prévoir. Donc, 2012, ça a été finalement prévu peut-être plus en 2013, plus 2014, plus 2015. Donc là, on en est à 8 ans de retard, puisque ça ne sera pas avant 2020. Et puis, ça devait coûter aux alentours de 3 milliards d'euros. Pour l'instant, c'est sûr que ça ne sera pas moins de 10,9 milliards d'euros. Alors, le dernier surcoût, c'était l'histoire de ces fameuses soudures, puisque je vous disais que c'était des soudures quand même un petit peu techniques. Ça va quand même être 400 millions d'euros à sortir pour refaire la moitié des 150 soudures, quoi. EDF n'a pas encore réagi officiellement au rapport qui est sorti aujourd'hui, mais selon Le Parisien, la direction de l'entreprise estime qu'il est encore trop tôt pour parler de défaillance quand même. Non, ils ont dit qu'on était défaillants, mais quand même, faut pas déconner. Et ils disent plutôt qu'ils ont encore 4 mois pour parler avec l'ASN pour les convaincre. Pas 4 mois pour refaire les trucs, mais pour les convaincre que non, en fait, ça devrait tenir. Alors, un autre souci, bien sûr, dans ce cadre-là, c'est que la France, fière de son savoir nucléaire, tient à exporter ses EPR dans le monde entier. Vous allez me dire, il faut quand même des gouvernements sacrément cons pour dire « Ouais, on a trop envie d'un EPR !» Alors on sait que les chantiers prennent trois fois plus de temps qu'on nous l'annonce, au minimum trois fois plus de temps qu'on nous l'annonce. On sait que si on part au départ sur un projet à 3 milliards, en fait, ça va en coûter 11. On sait que, bon, de toute façon, ça risque de péter par ailleurs comme n'importe quelle centrale. On sait maintenant que, de toute façon, tous les éléments sont en carton, les soudures sont pourries, la cuve est en acier qui tient pas, tout ça. Mais, bon, figurez-vous qu'il y a quand même toujours les Anglais et les Chinois qui continuent à se dire « Ah ouais, tiens, un EPR, pourquoi pas ?» Mais, alors voilà, le problème de ces 8 soudures, c'est qu'un nouveau retard lié aux dernières injonctions de l'ASN pourrait encore faire grimper l'addition. Transformer l'EPR en réacteur mort-né à l'export, c'est-à-dire que finalement peut-être qu'il finirait par y avoir un seul EPR que en France, que plus personne ne voudrait jamais en acheter, et mettre EDF en grande difficulté. Alors bien sûr, le gouvernement d'un côté fait vraiment tout, mais alors tout ce qu'il peut pour soutenir la filière nucléaire, 220 000 emplois en France. Et par exemple, il ne prévoit que 8 fermetures de réacteurs d'ici 2028. On se souvient, il y avait cette histoire où à un moment, on devait en fermer plein. Et puis Nicolas Hulot était venu devant les micros pour dire ah, « Désolé, en fait, on va en fermer à peine quelques-unes, pas trop. Les autres, on les fermera peut-être plus tard. Enfin bon, de toute façon, je ne serai plus là pour y voir. » Mais Nicolas Hulot, heureusement, a été remplacé par un ministre de l'écologie sérieux, en qui on croit, François de Rugy, l'homme qui, à force de retourner sa veste, il n'y a vraiment plus de couture. Et François de Rugy, quand même, vu où on en est à Flamanville, là, il a pété le poing sur la table, il a fait un acte d'autorité, il a fait une véritable prise de position écologique. Oui, c'est lui, c'est François de Rugy. Même lui, il a dit qu'il ne donnerait pas son feu vert à la construction de nouveaux EPR en France tant que celui de Flamanville ne sera pas opérationnel. Waouh ! Un truc de dingue.
C'est radical.
Ouvrez les guillemets, je cite François de Rugy, il faudrait déjà qu'EDF fasse la démonstration que le PR fonctionne, ce qui n'est pas encore le cas. Ah ouais ? Ouais ? Dingue ! Non mais le sens de l'observation, quoi. Alors, bon, bah, il faut quand même bien dire que dans le reste du monde, où les gens ne sont pas fiers de leur savoir-faire nucléaire, bah, globalement, le nucléaire recule. Les gens sont moins fans du nucléaire. On parle plutôt de se tourner massivement vers les énergies renouvelables. Et bah, peut-être que la France, à un moment ou à un autre, elle pourrait finir par comprendre que ces fameuses centrales nucléaires, il vaudrait mieux peut-être finir par s'occuper de savoir comment est-ce qu'on va les éteindre. Parce que ça aussi, c'est quand même une sorte de gros souci. C'est que pour l'instant, on s'est arrêté l'activité dans un premier temps. Mais après, on ne sait pas trop quoi faire de tout, quoi, du bâtiment, de ce qu'il y a dedans, de toutes les merdes. Alors, on laisse traîner. Il y a des sortes de projets de les couler dans le béton. Enfin, plein de choses qui ont l'air hyper sympas et malines. Ça serait peut-être quand même temps de se préoccuper, de comprendre comment on les ferme, plutôt que de se préoccuper d'en ouvrir de nouvelles. Toujours pas de virgule sonore ?
Non, toujours pas de virgule sonore. Non, on n'a rien,
Bon, bah, de toute façon, puisqu'on n'a rien, on va s'arrêter, non ?
Voilà. Et on peut finir par un petit agenda ?
Par un petit agenda. Toi, t'as des trucs ?
Ouais, mais laisse-moi le temps de les compiler.
Bon, très bien, alors vous allez continuer à entendre ma voix. Puisque moi, je vais vous signaler... Ah bah, d'ailleurs, je vais m'expliquer un petit peu, alors ça va encore prendre une ou deux minutes. Samedi à 15h, à la librairie Terre des Livres, rue de Marseille, au 80 et quelques rue de Marseille, l'atelier fiction autour du livre Bâtir aussi, un livre écrit par les ateliers de l'Antémonde. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, le livre d'abord, c'est un livre assez incroyable. C'est un livre qui est sorti au début de l'été, je crois. Hyper, hyper, hyper bien. C'est un livre qui se passe massivement, alors en partie en 2011, au moment de la Révolution, puisque la Révolution a eu lieu en 2011. Donc, il y a un chapitre qui se passe en 2011. Ça se passe à Lyon, d'ailleurs. Et là, c'est la révolution, c'est l'insurrection, c'est la baston. Et c'est beaucoup des discussions entre gens qui sont en train de faire la révolution. Et puis, cette révolution ayant réussi, les autres chapitres du livre se passent en 2021. Et là, on se trouve dans plusieurs endroits où les gens, ma foi, vivent après une révolution réussie, qui n'a pas été que facile, mais quand même, maintenant, on en est à un monde plus ou moins autogéré. Et comment est-ce qu'ils vivent ? Comment ils se démerdent avec des histoires de technologie ? Comment ils se démerdent avec des histoires d'organisation collective ? Comment ils se démerdent avec les gens qui ne veulent pas de cette révolution, mais qui sont quand même encore là ? On ne les a pas tous tués non plus. Comment est-ce que... Alors voilà, plein de choses. En sachant que c'est un livre qui a été écrit par un collectif d'auteurs et que du coup, les auteurs et auteures n'étant pas d'accord entre elles et eux sur un certain nombre de sujets, ça fait aussi qu'à plein de moments dans le bouquin, on a des discussions entre les personnages, des discussions au terme desquelles nous, lecteurs, lectrices, on n'est pas censé savoir qui a raison et qui a tort, on est censé se faire notre propre opinion. Du coup, le livre est extrêmement intéressant pour tout ça. Et alors, ce qui nous est proposé samedi à 15h, c'est l'atelier fiction, donc animé par les auteurs. Et c'est une sorte d'exercice de, un peu inédit, un peu rare, un peu un truc qu'on ne cultive pas massivement dans Scanu Info, un exercice d'optimisme politique. C'est-à-dire qu'on va...
Je ne vais pas du tout tout vous dévoiler,
mais en tout cas, les personnes qui vont... Alors attention, ce n'est pas du tout un atelier d'écriture, il n'est à aucun moment question de prendre un stylo et un papier, mais on y va pour, en gros, essayer de réfléchir ensemble à qu'est-ce que ça pourrait donner, qu'est-ce que ça pourrait donner si on réussissait. Voilà, donc je rappelle, c'est samedi, c'est à 15h et c'est à la librairie Terre des Livres. Et moi, je l'ai fait ailleurs parce qu'il y a une sorte de petite tournée et c'est génial.
Ensuite, eh bien, vous avez un peu plus... Ce que tu as dit que c'était... Rappelle quand c'était. Tiens.
15h samedi.
15h samedi. Et où ?
La librairie Terre des Livres, rue de Marseille. 80 des Brouettes, rue de Marseille.
Voilà. Eh bien, un peu plus tôt dans la semaine. Et ça se passe jeudi, comme tous les premiers jeudis du mois. Et ça se passe à l'atelier des Canulars, situé au 91 rue Montesquieu. Et donc, comme tous les premiers jeudis du mois, vous trouverez l'atelier des Canulars ouvert. Demain, c'est ça. Et merci, comme ça, j'ai réussi à formuler ma phrase. Bref. Ce jeudi a lieu le bistrot de la Caisse de Solidarité, voilà, pour venir boire des coups, rencontrer des gens sympas et en buvant des coups, ça remplit un peu la Caisse de Solidarité. Voilà, et ben allez-y, c'est cool quand même, c'est vraiment un bon prétexte pour boire des bières. Ensuite, quoi d'autre ? Eh bien, encore des histoires de jeudi, mais cette fois-ci, ce sera le prochain. Vous voyez, vous sentez que je suis en train de chercher sur mon ordinateur.
Ouais.
Ce sera le 11 octobre et c'est un atelier du groupe de soins qui. Voilà, alors je vous lis vite fait leur description. C'est penser collectivement la question liée à nos manières d'être malades et en bonne santé et s'autonomiser dans nos pratiques de soins personnelles et collectives en partageant expérience, savoir et compétences. Voilà, donc c'est des ateliers qui ont lieu le jeudi soir. Ils ont lieu à que je retrouve l'adresse, tac tac tac, ils vont nous dire où c'est. Ah ça y est, à l'Amicale, ce bar qui est situé au 31 rue Sébastien Griff dans le 7e arrondissement. Voilà, et il y a un atelier le jeudi 11 octobre sur l'anatomie pour les nuls, le 8 novembre sur le système digestif et les viscères, et le 13 décembre sur les brûlures. Voilà, bon bref, vous retrouvez ça sur Rebellion. Allez-y, ça a l'air chouette. C'est des questions qui ne sont pas forcément soulevées régulièrement sur le long terme. Voilà, ensuite, bon, on a fini.
En tout cas, moi, ouais, allez, moi aussi j'ai fini. Écoutez, on va vous laisser un petit quart d'heure de musique. Avant que vous ayez la joie de retrouver Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes qui arrive donc à 20h.
En attendant, merci de nous avoir écoutés et...
Si ça se trouve, à la semaine prochaine.
Allez, ciao.
Ciao.